Chapitre 3 De la vocation des Hébreux, si le don de prophétie leur a été propre. La vraie félicité, la béatitude, consiste dans la seule jouissance du bien et non dans la gloire dont un homme jouit à l'exclusion de tous les autres. Si quelqu'un s'estime plus heureux parce qu'il a des avantages dont ses semblables sont privés, parce qu'il est plus favorisé de la fortune, celui-là ignore la vraie félicité et la béatitude. Et si la joie qu'il éprouve n'est pas une joie puérile, elle ne peut venir que d'un sentiment d'envie et d'un mauvais cœur. Ainsi, c'est dans la seule sagesse et dans la connaissance du vrai que réside la félicité véritable et la béatitude de l'homme. Mais elle ne vient nullement de ce qu'un certain homme est plus sage que les autres, et de ce que les autres sont privés de la connaissance du vrai. Car cette ignorance n'augmente point sa sagesse et ne peut ajouter à son bonheur. Celui donc qui se réjouit de sa supériorité sur autrui qui se réjouit du mal d'autrui. Il est donc envieux, il est méchant. Il ne connaît pas la vraie sagesse, il ne connaît pas la vie véritable et la sérénité qui en est le fruit. Lors donc que l'Écriture, pour exhorter les Hébreux à la sagesse, dit que Dieu les a choisis entre toutes les nations, Deutéronome chapitre 10 verset 15, qu'il est leur allié et non celui des autres peuples, Deutéronome chapitre 4 verset 4-7, qu'à eux seuls il a prescrit de justes lois, Ibid verset 8, qu'à eux seuls il s'est fait connaître de préférence à tout autre peuple, Ibid verset 32 et suivant, il faut croire que Dieu se met à la portée des Hébreux, qui, ainsi qu'on l'a expliqué dans le chapitre précédent et au témoignage de Moïse lui-même, Deutéronome chapitre 9 verset 6, ne connaissent pas la vraie béatitude. Car ils n'en eussent pas été moins heureux si Dieu avait appelé au salut tous les hommes sans exception. Pour être également favorable aux autres peuples, il ne leur eût pas été moins propice, et les lois qu'il leur donna n'eussent pas été moins justes, ni au moins sages, ni les miracles de Dieu de plus éclatants témoignages de sa puissance, s'il les avait faits aussi en faveur du reste des nations. Enfin, les Hébreux eussent été également obligés d'honorer Dieu, si Dieu avait répandu également tous ses dons parmi tous les hommes. De même, quand Dieu dit à Salomon, roi, livre 1, chapitre 3, verset 11, qu'après lui, nul ne sera aussi sage que lui, ce n'est là qu'une manière de parler pour signifier une haute sagesse. Et quoi qu'il en soit, il ne faut pas croire que Dieu ait promis à Salomon, pour sa plus grande félicité, de ne donner à l'avenir à personne une sagesse égale à la sienne. Car en quoi cette promesse pouvait-elle augmenter l'intelligence de Salomon? Et comment ce sage roi eût-il rendu moins d'actions de grâce à Dieu pour un si grand bienfait, parce que Dieu lui aurait dit qu'il l'accorderait à tous les hommes? Toutefois, tout en soutenant que Moïse, dans les passages du Pentateuque cités plus haut, a voulu se mettre à la portée des Hébreux, je ne veux point nier que ces lois du Pentateuque n'aient été prescrites par Dieu aux seuls Hébreux, que Dieu n'ait parlé qu'à ce seul peuple, enfin que les Hébreux n'aient été témoins de toutes ces merveilles que les autres nations n'ont pas connues. Je veux seulement dire que Moïse y est pris de cette façon et s'est servi de ses raisons pour avertir les Hébreux, suivant la portée enfantine de leur esprit, de s'attacher plus fortement au culte de Dieu. Enfin, j'ai voulu montrer que le peuple juif n'a pas excellé entre tous les autres par sa science ni par sa piété, mais par un tout autre caractère, et, pour mettre comme l'Écriture mon langage d'accord avec les idées des Hébreux, que le peuple juif, malgré les fréquentes révélations que Dieu lui a faites, n'a pas été choisi pour la vie véritable et les sublimes spéculations, mais pour un objet tout différent. Quel est cet objet ? C'est ce que je vais faire voir. Mais avant d'entrer en matière, je veux expliquer en peu de mots ce que j'entendrai dans la suite par gouvernement de Dieu, secours interne et externe de Dieu, élection de Dieu, enfin par ce qu'on nomme fortune. Par gouvernement de Dieu, j'entends l'ordre fixe et immuable de la nature, ou l'enchaînement des choses naturelles. Car nous avons dit plus haut et nous avons montré aussi en un autre endroit que les lois universelles de la nature, par qui tout se fait et tout se détermine, ne sont rien autre chose que les éternels décrets de Dieu, qui sont des vérités éternelles et enveloppent toujours l'absolue nécessité. Par conséquent, dire que tout se fait par les lois de la nature ou par le décret et le gouvernement de Dieu, c'est dire exactement la même chose. De plus, comme la puissance des choses naturelles n'est que la puissance de Dieu par qui tout se fait et tout est déterminé, il s'ensuit que tous les moyens dont se sert l'homme, qui est aussi une partie de la nature, pour conserver son être et tout ce que lui fournit la nature sans qu'il fasse aucun effort, tout cela n'est qu'un don de la puissance divine, considérés comme agissant par la nature humaine ou par les choses placées hors de la nature humaine. Nous pouvons donc très bien appeler tout ce que la nature humaine fait par sa seule puissance pour la conservation de son être, secours interne de Dieu, et secours externe de Dieu, tout ce qui arrive d'utile à l'homme de la part des causes extérieures. Il est aisé d'expliquer à l'aide de ces principes ce qu'il faut entendre par élection divine. Car personne ne faisant rien que suivant l'ordre prédéterminé de la nature, c'est-à-dire suivant le décret et le gouvernement de Dieu, il s'ensuit que personne ne peut se choisir une manière de vivre, ni rien faire en général que par une vocation particulière de Dieu, qui le choisit pour cet objet, à l'exclusion des autres. Enfin, par fortune, j'entends tout simplement le gouvernement de Dieu en tant qu'il dirige les choses par des causes extérieures et inopinées. Après ces éclaircissements, revenons à notre sujet et voyons dans quel sens il est dit que la nature hébraïque a été élue de Dieu de préférence à toutes les autres. Pour cela, je pose en principe que les objets que nous pouvons désirer honnêtement se rapportent à ces trois fondamentaux. Connaître les choses par leur cause première, dompter nos passions ou acquérir l'habitude de la vertu, vivre en sécurité et en bonne santé. Les moyens qui servent directement à obtenir les deux premiers biens, et qui en peuvent être considérés comme les causes prochaines et efficientes, sont contenus dans la nature humaine de telle sorte que l'acquisition de ces biens dépend principalement de notre seule puissance, je veux dire des seules lois de la nature humaine. Et par cette raison, il est clair que ces biens ne sont propres à aucune nation, mais qu'ils sont communs à tout le genre humain, à moins qu'on ne s'imagine que la nature a produit autrefois différentes espèces d'hommes. Mais, pour ce qui est des moyens de vivre avec sécurité et de conserver la santé du corps, ils sont surtout dans la nature extérieure parce qu'ils dépendent surtout de la direction des causes secondes que nous ignorons. De façon que, par cet endroit, l'homme sage et l'insensé sont également heureux ou malheureux. Toutefois, la conduite de l'homme et sa vigilance peuvent aider beaucoup à la sécurité de la vie et préserver l'homme des atteintes de ses semblables et aussi de celles des bêtes. Or, le moyen le plus certain que nous indiquent la raison et l'expérience, c'est de former une société fondée sur des lois et de s'établir dans une région déterminée où toutes les forces individuelles se réunissent comme un seul corps. Et certes, il ne faut pas peu de génie et de vigilance pour former et maintenir une société. C'est pourquoi elle offrira d'autant plus de sécurité et sera d'autant plus durable et d'autant moins sujette aux coups de la fortune qu'elle sera fondée et dirigée par des hommes plus sages et plus vigilants, tandis qu'une société établie par des hommes d'un grossier génie dépend de la fortune par tous les endroits et n'a aucune solidité. Si elle dure longtemps, elle le doit non à elle-même mais à une autre puissance. Si elle surmonte de grands périls et si tout lui réussit heureusement, il lui est impossible de ne pas admirer, de ne pas adorer la puissance de Dieu. Je parle ici de Dieu en tant qu'il agit par des causes extérieures cachées et non par la nature humaine et par l'âme, puisque, enfin, ce qui lui arrive est inattendu et va au-delà de ses espérances et par conséquent peut fort bien passer pour un miracle. Les nations ne se distinguent donc les unes des autres que par le genre de société qui unit les citoyens et par les lois sous lesquelles ils vivent. Si donc la nation hébraïque a été élue par Dieu, ce n'est pas qu'elle se soit distinguée des autres par l'intelligence ou par la tranquillité de l'âme, mais bien par une certaine forme de société et par la fortune qu'elle a eue de faire de nombreuses conquêtes et de les conserver pendant une longue suite d'années. C'est ce qui résulte très clairement de l'Écriture elle-même. Il suffit d'y jeter les yeux pour voir que les Hébreux n'ont surpassé les autres nations que par l'heureux succès de leurs affaires en tout en ce qui touche la vie, les grands dangers qu'ils ont surmontés, tout cela par le secours extérieur de Dieu. Et pour tout le reste, ils ont été égaux à tous les peuples de l'univers, et Dieu s'est montré pour tous également propice. Il est certain, en effet, que sous le rapport de l'entendement, ils n'ont eu, comme on l'a fait voir dans le chapitre précédent, que des idées très vulgaires sur Dieu et la nature. Ce n'est donc point par cet endroit qu'ils ont été le peuple élu. Ça n'a pas été non plus par la vertu et la pratique de la vie véritable, car ils n'ont pas surpassé de ce côté, sauf un très petit nombre d'élus, le reste des peuples. Leur caractère de peuple choisi de Dieu et leur vocation viennent donc seulement de l'heureux succès temporel de leur empire et des avantages matériels dont ils ont joui, et nous ne voyons pas que Dieu ait promis autre chose aux patriarches ou à leurs successeurs. Dans la loi elle-même, on ne trouve d'autre prix promis à l'obéissance que la continuation de la prospérité de l'empire et les autres avantages de ce genre. Et toute la punition de leur entêtement, de leur désobéissance au pacte fondamental, c'est la ruine de l'empire et les plus grands malheurs, mais temporels. Il ne faut point en être surpris. car la fin de toute société et de tout gouvernement, c'est la sécurité et la commodité de la vie. Je crois l'avoir déjà fait comprendre, mais je le prouverai plus clairement encore dans la suite de ce traité. Or, l'État ne peut se maintenir que par des lois auxquelles tout citoyen soit tenu d'obéir. Et si vous supposez que les membres d'une société se dégagent des liens de la loi, la société est dissoute et l'ordre détruit. Tout ce qui a pu être promis aux Hébreux comme prix de leur constante obéissance aux lois, c'est donc la sécurité et les autres avantages de la vie. Et comme punition de leur endossissement au mal, c'est la ruine de leur empire et les maux qui en sont les suites, sans parler des fléaux particuliers dont ils devraient être accablés par suite de leur dispersion. Mais ce n'est pas encore le moment de traiter à fond cette matière. Je me bornerai donc à ajouter que les lois du Vieux Testament n'ont été révélées ni établies que pour les Juifs. Car Dieu, ne les ayant élus que pour former une société particulière et un empire, il fallait nécessairement qu'ils usent des lois particulières. Quant aux autres nations, je ne suis pas bien certain que Dieu leur ait aussi donné des lois particulières, ni qu'il se soit manifesté à leurs législateurs comme aux prophètes des Hébreux, je veux dire sous les mêmes attributs avec lesquels ceux-ci se les représentaient. Mais je sais que l'Écriture enseigne que ces nations avaient aussi un empire et des lois qu'elles avaient reçues du secours externe de Dieu. Qu'il me suffise pour le prouver de citer deux passages des livres saints. On lit dans la Genèse, chapitre 14, versets 18-19-20, que Melchisédek fut roi de Jérusalem et pontife du Dieu Très-Haut, qu'il bénit Abraham par le droit que lui donnait le pontificat, Nombre, chapitre 6, verset 23, et enfin qu'Abraham, chéri de Dieu, paya à ce pontife de Dieu la dîme de tout son butin, par où l'on voit que Dieu, avant la fondation du peuple d'Israël, avait établi des rois et des pontifes dans la ville de Jérusalem, auxquels il avait donné des rites et des lois. Les donna-t-il d'une façon prophétique? C'est, je le répète, ce dont je ne suis pas certain. Je suis porté à croire cependant qu'Abraham, tant qu'il vécut dans cette contrée, observa religieusement les lois. Car bien qu'il ne paraisse pas que Dieu lui en ait donné de particulières, il est dit, Genèse, chapitre 26, verset 5, qui garda les préceptes, le culte, les institutions et les lois de Dieu, ce qui doit sans doute s'entendre dans les préceptes, du culte, des institutions et des lois du roi Melchisédek. Pour le second passage, qu'on lise les reproches que Malachias adresse aux Juifs, chapitre 20, verset 10-11, « Qui d'entre vous ferme les portes du temple, de peur que l'on ne mette en vain le feu sur mon autel ?»« Je ne me comptais pas en vous, etc. Car depuis le soleil levant jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations, et l'on m'offre partout des parfums et de pures oblations. Car mon nom est grand parmi les nations, dit le Dieu des armées. » Or, ces paroles ne pouvant s'expliquer qu'au présent, à moins qu'on ne veuille en torturer le sens, il s'ensuit que les Juifs n'étaient pas plus chers à Dieu en ce temps-là que les autres nations, que Dieu se manifestait à celles-ci par plus de miracles qu'aux Juifs, qui avaient déjà conquis une partie de leur royaume avant d'en avoir vu un seul, enfin, qu'elles avaient des rites et des cérémonies qui les rendaient agréables à Dieu. Mais je ne veux point m'étendre davantage sur le sujet, qu'il me suffise, pour le but que je me propose, d'avoir montré que l'élection des Juifs ne concernait que les avantages temporels du corps et la liberté, c'est-à-dire leur empire, les moyens qu'ils employèrent pour l'établir et les lois qui étaient nécessaires à cet établissement, puis d'avoir expliqué comment ces lois leur furent révélées. Enfin, d'avoir prouvé que sur tout le reste et en tout ce qui touche à la véritable félicité de l'homme, les Juifs n'ont eu aucun avantage sur les autres peuples. Lors donc qu'il est dit dans l'Écriture, Deutéronome chapitre 4 verset 7, qu'aucune nation n'a ses dieux aussi près de soi que les Juifs, cela ne se doit entendre que de l'Empire juif et des miracles si nombreux qui arrivèrent à cette époque, puisque, sous le rapport de l'entendement et de la vertu ou de la béatitude, nous venons de voir que Dieu est également propice à tous les hommes. Nous l'avons prouvé par la raison, en voici la confirmation par l'Écriture. Psaume 145, verset 18. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Et dans un autre endroit du même psaume, verset 9, Dieu est bon pour tous les hommes et sa miséricorde éclate dans tous ses ouvrages. Dans un autre psaume, 33, verset 1, il est dit clairement que Dieu a donné à tous les hommes le même entendement, Dieu qui forme leur cœur d'une même manière. Or, le cœur était chez les Hébreux, comme tout le monde le sait, le siège de l'âme et de l'entendement. Il est évident par Job, chapitre 28, verset 28, que Dieu a donné la même loi à tout le genre humain, savoir la loi d'adorer Dieu et de s'abstenir des actions mauvaises ou de faire le bien. C'est pourquoi Job, quoique gentil, fut particulièrement agréable à Dieu parce qu'il surpassa les autres hommes en piété et en religion. L'histoire de Jonas, chapitre 4, verset 2, nous apprend encore fort clairement que ce n'est pas seulement aux Juifs, mais à tous les peuples que Dieu est propice, et qu'il est miséricordieux, indulgent, plein de bonté pour tous les hommes, et se repent même du mal qu'il leur a fait. J'avais résolu, dit Jonas, de m'enfuir à Tarse parce que je savais, par les paroles de Moïse, Exode chapitre 34, verset 6, que vous êtes un Dieu propice, miséricordieux, etc., et conséquemment que vous pardonneriez aux Ninivites. Concluons donc, puisque Dieu est également propice à tous les hommes et que les Hébreux n'ont été le peuple élu de Dieu que relativement à la société qu'ils ont formée et à leur empire, qu'un Juif, considéré hors de la société et de l'empire juif, n'avait aucun don qui lui fût propre et qu'il n'y avait entre lui et un gentil aucune sorte de différence. Et puisqu'il est bien établi que Dieu est également bon et miséricordieux pour tous les hommes, et que la mission des prophètes fut moins de donner à leur patrie des lois particulières que d'enseigner aux hommes la véritable vertu, il s'ensuit que toute nation a eu ses prophètes, et que le don de prophétie ne fut point propre à la nation juive. C'est là un point également établi par toutes les histoires, tant sacrées que profanes. Car, bien que le Vieux Testament ne dise pas que les autres nations aient eu autant de prophètes que la nation juive, et qu'il ne parle même expressément nulle part d'aucun prophète gentil envoyé par Dieu aux nations étrangères, peu importe. Car les Hébreux ont seulement voulu écrire leur histoire et non celle des autres nations. Il suffit donc que nous trouvions dans le Vieux Testament que des hommes incirconcis, des gentils, ont prophétisé, tels que Noah, Hanok, Abimelech, Bilam, etc. Et que les prophètes hébreux ont été envoyés par Dieu, non seulement à ceux de leur nation, mais aussi à beaucoup de nations étrangères. Ainsi, Ézéchiel a prophétisé à toutes les nations alors connues, Obadias aux seuls Iduméens, et Jonas a été surtout le prophète des Ninivites. Ce n'est pas seulement des Juifs, mais aussi les autres nations qu'Isaïe déplore et prédit les calamités et célèbre leur établissement. C'est pourquoi, dit-il, chapitre 16, verset 9, « Mes larmes feront voir la douleur que me cause Janser. » Dans le chapitre 19, le même prophète prédit d'abord les calamités des Égyptiens, puis leur établissement. Voyez les versets 19, 20, 21, 25. Il leur fait connaître que Dieu leur enverra un sauveur qui les délivrera et se révélera à eux, qu'ils l'honoreront par des sacrifices et des présents. Enfin, il appelle cette nation le peuple d'Égypte béni de Dieu, toutes choses qui nous paraissent très dignes d'être remarquées. Enfin, Jérémie n'est pas seulement le prophète des Hébreux, mais de toutes les nations, chapitre 5, verset 5, parce qu'il déplore et prédit les calamités des nations étrangères et prédit aussi leur délivrance. Il s'exprime ainsi, chapitre 48, verset 31, sur les Moabites. « C'est pourquoi j'élèverai ma voix à cause de Moab, et tout Moab excitera mes clameurs, etc. » Et « Mon cœur frémit comme un tambour à cause de Moab. » Puis, il prédit le rétablissement des Moabites et celui des Égyptiens, des Ammonites et des Élamites. Il est donc hors de doute que les autres nations ont eu comme les Juifs leurs prophètes qui ont prophétisé pour elles et pour les Juifs, quoique l'Écriture ne fasse mention que d'un seul, Bilam, à qui fut révélé l'avenir des Juifs et des autres nations. Il ne faudrait pas croire que Bilam n'eût prophétisé qu'en cette occasion que l'Écriture a marqué, car il résulte du récit même de l'Écriture qu'il s'était distingué bien avant cette époque par le don des prophéties et d'autres qualités extraordinaires. Quand, en effet, Balak le fit venir, il lui dit, Nombre, chapitre 22, verset 6, « Je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Bilam avait donc cette même vertu dont parle la Genèse et que Dieu avait donnée à Abraham, chapitre 12, verset 3. Il répondit, suivant l'usage des prophètes, aux envoyés de Balak, de rester auprès de lui jusqu'à ce que Dieu lui eût révélé sa volonté. Quand il prophétisait, c'est-à-dire quand il interprétait la volonté de Dieu, voici ce qu'il disait ordinairement de lui-même. La voix de celui qui entend la parole de Dieu, qui connaît la science, c'est-à-dire l'intelligence ou préscience, du Très-Haut, qui voit face à face le Tout-Puissant qui tombe à terre, mais qui a les yeux ouverts. Après avoir béni les Hébreux selon sa coutume par l'ordre de Dieu, il commence de prophétiser aux autres nations et de prédire leur avenir. Ce qui prouve bien que Bilam a été prophète toute sa vie, ou du moins qu'il a très souvent prophétisé. Et il faut remarquer aussi qu'il possédait ses qualités morales ou était la source de la certitude qu'avaient les prophètes de la vérité de leurs prédictions. Je veux dire, une âme uniquement portée à l'équité et au bien. Car il ne bénissait pas et ne maudissait pas selon son caprice, comme Balak se l'imaginait, mais selon les ordres de Dieu. Aussi, il répond à Balak en ces termes. « Balak me donnerait assez d'argent et d'or pour remplir son palais, que je ne pourrais transgresser le commandement de Dieu et produire à mon gré du bien ou du mal. Ce que Dieu dira, je le dirai. » Que si Dieu s'irrita contre Bilam pendant son voyage, la même chose arriva à Moïse en allant en Égypte par ordre de Dieu. Exode chapitre 4, verset 24. S'il prophétisait pour de l'argent, Shamuel en prenait aussi. Shamuel, livre 1, chapitre 9, verset 2-8. Enfin, s'il eut quelques faiblesses, voyez sur ce point Épître de Pierre, Épître 2, chapitre 2, versets 15 et 16, et Jude, verset 11, on peut lui appliquer ces paroles de l'Écriture, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Il n'est point d'homme si juste qu'il agisse toujours bien et ne pêche jamais. Et certes, il faut croire que ses discours avaient auprès de Dieu une grande autorité et que sa puissance de malédiction fut très forte, puisque l'Écriture dit si souvent, en témoignage de la miséricorde de Dieu à l'égard des Israélites, que Dieu refusa d'écouter Bilam et changea sa malédiction en bénédiction. Vous voyez Deutéronome, chapitre 23, verset 6, Josué, chapitre 24, verset 10, Néhémie, chapitre 13, verset 2. Dieu suit que Bilam devait être très agréable à Dieu, Dieu n'étant nullement touché des discours et des malédictions des impies. Ainsi donc, puisque Bilam a été un vrai prophète, et que Josué l'appelle néanmoins, chapitre 13, verset 20, un devin, un augure, il faut bien que ce nom se prit en bonne part, et que les hommes qu'on nommait chez les gentils devin ou augure aient été le vrai prophète, ce que l'Écriture accuse et condamne ayant été le faux devin qui trompait les gentils, exactement comme les faux prophètes tromper les juifs. C'est ce qui résulte d'ailleurs de plusieurs passages de l'Écriture. Nous sommes donc finalement amenés à cette conclusion que le don de la prophétie n'était pas propre aux juifs, mais commun à toutes les nations.